Bienvenue à ce nouveau petit cours d'histoire mondiale. Nous poursuivons notre exploration des événements historiques survenus au tournant des années 1000 avant notre ère, en nous intéressant cette fois-ci à une région méditerranéenne que nous n'avons pas encore abordée, soit l'Italie. Et oui, intéressons-nous un peu à la géographie de cette péninsule qui, bien qu'elle ait connu des étapes évolutives comme la néolithisation ou l'âge du bronze un peu plus tardivement que l'Égypte ou l'Égée, en est venue à voir émerger deux grandes civilisations. Pour les années 900 avant notre ère environ, ce sont les Étrusques qui nous intéressent pour l'instant. Êtes-vous prêt à découvrir cette civilisation moins connue que d'autres en histoire ancienne? Eh bien, à vos cahiers de notes, c'est parti! Comme on n'a pas du tout abordé l'Italie depuis le début de ce cours en format balado, on va remonter le temps un peu pour bien comprendre en fait comment la péninsule d'environ 260 000 km² en est venue en fait à atteindre elle aussi là, les étapes évolutives importantes qu'on a vues pour d'autres civilisations, là, comme je vous disais, comme le néolithique, l'âge du bronze, ce qui va nous intéresser en fait aujourd'hui, l'âge du fer. Et l'Italie, oui, c'est cette espèce de territoire encerclé de tous les côtés par la mer, sauf un. C'est ce qu'on pourrait appeler une péninsule. On dit aussi souvent que c'est un bout de continent qui s'avance dans la mer. Et on a quand même une diversité géographique assez intéressante. Donc, au nord, on a les Alpes qui vont séparer l'Italie du reste du continent européen. Au sud, on a la vallée du Pô. On a un territoire, en fait, qui est dominé par l'eau, les montagnes, parce que vous avez en plus la chaîne des Apennins qui surplombe quand même une bonne partie de la péninsule. Et côté hydraulique, ben on a quand même beaucoup de choses. On a la mer Adriatique au nord-est environ, on a la mer Tyrrhénienne au sud-ouest, on a la mer Ionienne au creux de la botte, et quand on est du côté de la Sicile, on pourrait même parler là, de la mer Sicilienne. Et comme pour l'histoire de bon nombre de pays, en fait, ben c'est sûr que les premiers centres de population de l'Italie, ceux qu'on a pu identifier par l'archéologie, ben se sont formés surtout le long des côtes, près de la mer. C'est sûr que la chaîne de montagnes des Apennins, surtout quand on va en venir à se sédentariser en Italie n'était peut-être pas le meilleur endroit pour le faire au départ. L'accès à l'eau, l'accès à la mer, en fait une venue peut-être par la mer aussi, c'était peut-être plus intéressant et plus facile en fait pour en venir à se sédentariser et pratiquer l'agriculture. Donc, il ne faut pas oublier en fait ce facteur-là quand on pense à la sédentarisation. Alors, c'est sûr que c'est la côte ouest pour l'Italie qui a été peut-être développée en premier parce que les terres aussi étaient plus fertiles, mieux irriguées que peut-être le reste de la péninsule. Et vous avez en plus des grands cours d'eau, notamment quatre grandes rivières navigables qu'on pouvait naviguer une fois bien établi, avec des barges, des petits bateaux de pêche, qui ont probablement en fait favorisé l'installation des gens dans ce secteur-là. Donc, vous avez en fait l'Arno, le Tibre. Donc, quand on connaît Rome, le Tibre est très important. Vous avez le Liris, le Volturne. Et ça va faire en sorte que tous ces éléments, en fait, géographiques-là vont donner naissance quand même à plusieurs grandes régions, en fait, de développement qui vont faire place à la mer Tyrrhénienne et qui vont devenir un peu les berceaux de l'histoire italienne. Et c'est donc parce que, comme je vous le disais, le fait qu'on ait des terres fertiles bien irriguées, proximité de fleuves et de mers, c'était peut-être un petit peu plus intéressant que les chaînes de montagnes, surtout au début. Alors, vous allez avoir l'Étrurie qui va nous intéresser aujourd'hui. Vous allez avoir le Latium. Alors là, on pense à la fondation de Rome sur les rives du Tibre. Et dans la baie de Naples, vous avez la fameuse Campanie, quand vous pensez entre autres à Pompéi, qui va fournir les plus grandes richesses agricoles là, de l'Italie quand Rome va se développer plus tard. Et on sait que les ancêtres des populations, on va dire latines, ceux qu'on va appeler les latins, qui est un terme très, très large, très englobant, parce que, l'archéologie avance bien, en fait, pour mieux comprendre les populations pré-romaines et même pré-étrusques, mais dans un format balado, c'est peut-être pas l'idéal, pas ce qui est le plus facile à aborder, parce que, les objets archéologiques parlent peut-être plus, en fait, donc le visuel que les mots dans ce contexte-là. Mais on sait que, donc, les Latins vont s'établir tout d'abord dans le Latium et en Sicile, qui sont vraiment les berceaux de la sédentarisation parce qu'effectivement, les terres, ils sont fertiles. Et on va voir, en fait, que les premières bases, on va dire très sommaires, d'une vie sociale, économique, avec des gens qui commencent à vivre en communauté, donc en petits villages, dans des petites huttes, où on va commencer à pratiquer l'agriculture, ça semble se jeter autour des années 4000 avant notre ère. Donc, entre 5000 et 4000 avant notre ère, on pourrait parler là, du long processus de la néolithisation, donc du passage, je vous rappelle, de chasseurs-cueilleurs-pêcheurs ici aussi. à agriculteurs, donc producteurs de leur nourriture, et donc de nomades, semi-nomades à sédentaires. Donc, du point de vue archéologique, ce qu'on a au départ pour ces époques-là, c'est vraiment des traces de petits villages, et comme je dis, ce sont des petites huttes rondes. Les villages ont moins d'une centaine d'habitants. Et les premières cultures, en fait, qu'on va trouver du côté de l'Italie, bien, c'est l'orge et le blé. On sait qu'éventuellement, on va en venir à élever des moutons, des chèvres, des cochons. Et c'est un modèle tout simple qui va perdurer jusqu'à ce qu'on atteigne l'âge du bronze. Et là, on va se situer à peu près entre 1800 et 1200 avant notre ère. Alors là, on commence à être contemporain, en fait, des civilisations minoennes, crétoises et mycéniennes du côté de l'Égée et de la grande époque, en fait aussi, entre autres, du Nouvel Empire du côté de l'Égypte ancienne. C'est sûr que comme on n'a pas d'écriture encore, qu'on n'a pas tant, en fait, d'objets archéologiques que ça, c'est sûr que la hiérarchie sociale de l'époque, les modes d'échange et de contact entre les différents groupes qui vont venir à habiter l'Italie, c'est pas nécessairement ce qu'on connaît le mieux, mais on sait que les techniques de poterie sont assez simples, surtout si on compare effectivement à des sociétés qui vont atteindre l'âge du bronze bien avant, comme l'Égypte ou la Grèce, là, pour la même époque, ou même la Mésopotamie. Et on voit en fait que la céramique, c'est pas une spécialisation aussi grande que ce qu'on a vu ailleurs, et peut-être plus une activité qui est propre aux familles. Donc, chaque famille va faire sa propre poterie pour conserver les grains, pour transporter les liquides, etc. Mais quand on atteint, en fait, l'âge du bronze, là, c'est sûr qu'on arrive avec la métallurgie, donc le travail du métal et cet alliage bien précieux de cuivre et d'étain. Et là, on va avoir besoin d'experts, en fait, qui vont faire ces alliages-là, parce que c'est pas tout le monde qui peut travailler les métaux. Et on semble penser que les experts qui ont peut-être appris au contact, entre autres, des Phéniciens, vont se déplacer de village en village quand les gens vont avoir besoin, en fait, de faire fabriquer des objets en bronze. On a trouvé, en fait, des objets métalliques comme des armes dans l'est de l'Italie, dans les Balkans, qui témoignent quand même d'un haut degré là, de standardisation des armes en bronze. Et je vous parlais de peut-être des échanges avec les Phéniciens, mais pour les armes en bronze, on voit beaucoup plus de liens avec les Mycéniens qui semblent donc avoir étendu leur savoir-faire là, sur une bonne partie du sud de l'Europe, incluant l'Italie. Et donc, c'est en train, même si on n'a pas d'écriture, de nous prouver quand même qu'il y avait des contacts commerciaux entre la côte sud de l'Italie et les Mycéniens de l'Égée, et possiblement, parce qu'ils étaient ils naviguaient dans ce secteur-là, nos Phéniciens. Et c'est ce qui fait en sorte que parce que les populations latines, en fait, vont avoir ce genre de contact, plutôt que d'avoir à inventer, à penser au processus, en fait, de la métallurgie, ils ont probablement, en fait, appris à le faire grâce à des gens qui maîtrisaient déjà très, très bien, en fait, le travail du bronze. Donc, c'est ce qu'on appelle des transmissions de savoir interculturelles, et c'est un petit peu ce qui semble s'être passé du côté de l'Italie et qui explique qu'on va passer quand même un petit peu plus rapidement de l'âge du bronze à l'âge du fer, parce que c'est au début, en fait, on parlait des années 900 jusqu'au 800, donc 9e siècle avant notre ère, que là, on va voir des développements plus importants en Italie pour l'âge du fer. Donc, généralement, selon les livres et les experts, vous allez voir du 9e siècle à la première moitié du 8e siècle avant notre ère pour le développement vraiment de l'âge du fer. Certains historiens archéologues vont peut-être commencer davantage, même au tournant du 10e siècle, donc les années 1000 même, là, pour ce passage graduel quand même du bronze au fer. Le fer qui est quand même un métal et non pas un alliage, c'est plus facile de se l'approprier, surtout en Italie. C'est moins cher parce qu'on n'a pas à faire fondre de métaux et à les mélanger ensemble. Mais c'est sûr que ça demande peut-être plus de technicité pour aboutir à des armes et des outils de qualité que ce qu'on était habitué de faire avec le bronze. Mais on va très vite réaliser, en fait, que c'est plus solide que les armes en bronze. Et donc, le fer, lui, parce qu'on n'a pas créé d'alliage, est plus facile à employer pour des objets de la vie quotidienne, comme les outils agricoles. Alors que pour le bronze, ben, les coûts de production, ce que ça demandait, c'est sûr que c'était réservé, en fait, aux objets cultuels, religieux et surtout à tout ce qui avait un lien avec la défense. Et donc, pendant l'âge du fer, ben c'est là, en fait, où on va voir l'émergence de groupes culturels qui vont commencer à se développer un petit peu partout sur la péninsule italienne. Par les objets découverts, voient qu'ils se connaissaient entre eux et devaient échanger d'une façon ou d'une autre. Et il va y avoir des centres de pouvoir, même de richesse, qui vont commencer à se développer sur la côte, on va dire, sud-ouest de la péninsule italienne. Donc, je vous invite à regarder avec une carte, que ce soit plus clair. Les mieux connus, ce sont les Villanoviens, qui, eux, s'étaient établis au départ en Bologne, ensuite en Étrurie, et qui vont aussi s'établir là, dans la chaîne des Apennins, même en Campanie. Donc, ils vont quand même très, très loin, en fait, là, au niveau de leur du territoire qu'ils vont couvrir. Et eux, on va voir que leur site d'établissement, qu'on peut reconnaître par la forme, en fait, des huttes et surtout les objets, en fait, comme la céramique et tout ça qui leur est caractéristique, on voit une augmentation constante de leur site d'établissement aux alentours, en fait, des années 900 avant notre ère. Et ce qu'on remarque, c'est qu'ils ont eu tendance à choisir des lieux qui étaient protégés de façon naturelle, comme des plateaux rocheux et qui vont renforcer avec des tranchées. Donc, on sent que protéger ses biens, ses richesses naturelles, protéger aussi l'agriculture, qui reste quand même fragile, c'était terriblement important pour les Villanoviens. Et on a des sites comme l'ancienne ville de Véies, qui ont commencé à être habités par des populations peut-être un petit peu plus substantielles que ce qu'on avait au départ. Là, on va dépasser, en fait, le millier d'habitants et on va commencer à avoir des cimetières. Et c'est pour ça qu'on les connaît un petit peu mieux et qu'on a plus d'objets. Montre que ce ne sont pas nécessairement tous les habitants qui vont y être inhumés, mais quand même les personnes les plus importantes peut-être vont avoir le droit à une inhumation dans ces cimetières-là. Par contre, dans les cimetières, on a rarement des squelettes. Des fois, oui, en fait, mais c'est surtout l'incinération qui était pratiquée par les Villanoviens et ce sont essentiellement des cendres dans des urnes qu'on a, mais accompagnées souvent d'objets. Et c'est la raison pour laquelle on va commencer à parler des Villanoviens comme un groupe culturel de proto-urbains. Ils n'ont pas encore de gros édifices publics en pierre, donc là, c'est vraiment nos Étrusques qui vont nous intéresser là-dessus, mais ils semblent quand même avoir un système social assez élaboré, puisqu'on a quand même ce qui pourrait ressembler plus à des villes, avec, comme je vous disais, des cimetières pour l'élite, en fait, de la société. Si on continue notre chemin et qu'on s'en va dans le centre, en fait, le Latium, on va avoir les Ombriens, qui ont des villages un petit peu plus petits que les Villanoviens, rarement plus d'une centaine d'habitants, mais qui, eux aussi, vont avoir des cimetières, et là, eux vont inhumer davantage leurs morts que les Villanoviens, et eux aussi vont être enterrés avec des objets, entre autres de bronze et même de verre, un verre très épais, très opaque, parce que les Romains vont produire plus tard. Et, comme je vous le disais précédemment, ces cultures latines-là vont établir des contacts avec nos navigateurs, qui vont arriver le long de la péninsule italienne, les Phéniciens, les Grecs, parce que ils sont quand même très, très près. Et comme les sites mentionnés sont proches des côtes maritimes, les contacts vont se faire assez facilement. Et les échanges, donc, de connaissances, les transmissions de savoir vont aussi se faire entre les Grecs, les Phéniciens et les populations latines. Les Grecs qui, eux, vont établir des comptoirs commerciaux dans plusieurs secteurs de la Méditerranée, mais qui vont surtout s'établir dans le secteur de la Sicile et du sud de l'Italie, tout ce qui est la botte. Les Phéniciens qui, eux, vont aller davantage aussi avec des comptoirs commerciaux, mais vont entre autres s'établir du côté de Carthage. Donc, ils sont tous, en fait, dans ce secteur-là. Et après les siècles obscurs en Grèce, qu'on reverra, donc ce sera un prochain cours, on est autour des années 800 avant notre ère, je vous le rappelle, là, on est capable de voir une augmentation des contacts avec l'Italie par les objets. On est capable, en fait, de voir qu'on a des objets venant, en fait, de l'Égée sur la péninsule italienne. Moins, par contre, d'objets de la péninsule italienne en Grèce, par contre. Mais on voit quand même ces contacts-là par la culture matérielle. Et nos Grecs, donc, eux, vont commencer à faire ce qu'on appelle la colonisation. Vont quitter l'Égée pour trouver d'autres territoires, en fait, fertiles. C'est l'agriculture qui intéresse. Et ils vont donc arriver, entre autres, dans le sud de l'Italie. En 775 avant notre ère, on sait que les Grecs s'établissent entre autres sur l'île de Pithécuse dans la baie de Naples. Ils vont aller du côté de Cume et bien entendu, comme je vous le disais, vont habiter entre autres les côtes de la Sicile, ce grenier à blé méditerranéen. Et c'est ce secteur qu'on va appeler éventuellement la Grande Grèce. En fait, ce nom-là va être donné à la région par les Romains, qui vont y avoir beaucoup de contacts importants. On verra ça dans d'autres cours beaucoup plus tard. Et au même moment, donc, on est rendu entre les années 900 et le milieu du 8e siècle avant notre ère, il y a quand même pas mal de changements politiques et sociaux au gré, en fait, de ces contacts culturels avec les autres sociétés en dehors de l'Italie. Et on est capable de voir qu'il y a des changements politiques et sociaux dans les régions les plus importantes que sont l'Étrurie, le Latium et la Campanie. Et c'est comme ça qu'on voit que le modèle, on va dire, urbano-politique des Grecs, qui est la cité-État, va se se transmettre en Italie, mais ça va être quand même assez différent au niveau peut-être de la gestion. Mais on voit quand même une forme concrète d'établissement et on voit un développement d'organisation sociale, politique, militaire qui va commencer à être beaucoup plus précis et plus développé, en fait, dans cette section-là de l'Italie. Et on va avoir, en fait, des traces, en fait, de territoires clairement délimités avec des murs, des fortifications dans certains secteurs là, qui vont être réservés là, pour les centres urbains, pour la population générale. On délimite les terres agricoles, on délimite les cimetières qui sont souvent, en fait, la frontière de ces cités qui sont en train de se développer, en fait, sur la péninsule italienne. On commence à voir des centres urbains avec des sanctuaires, ce qui est un peu nouveau, en fait, quand on arrive autour du 8e siècle avant notre ère, là, d'avoir vraiment des lieux qui semblent bel et bien avoir été des endroits réservés au sacré, à la communication peut-être avec le divin. Et c'est sûr que les plus grandes cités, au départ, ce sont celles que les Grecs vont développer dans le sud de l'Italie. Eux vont atteindre, en fait, des villes quand même avec beaucoup d'habitants, plusieurs milliers d'habitants, et vont peut-être être un petit peu plus, je dirais, avancés du point de vue de l'architecture aussi. Mais si on s'en va du côté de l'Étrurie, ce contact-là quand même avec la culture phénicienne, avec la culture grecque, va faire en sorte que l'ancienne culture villanovienne va se développer vers ce qu'on va appeler une civilisation italienne, la première civilisation de l'Italie, que sont les Étrusques. Aujourd'hui, on sait en fait que les Étrusques et la culture villanovienne sont vraiment liés. Parce que, bon, la culture villanovienne qu'on a mentionnée plus tôt, c'est vraiment développée pendant l'âge du fer en Italie centrale, à partir, on va dire, d'environ les années peut-être 1100 avant notre ère. Et grâce aux analyses d'ADN, entre autres, qui ont été réalisées via des restes humains dans des cimetières étrusques, on voit vraiment là, qu'ils sont en fait pour plusieurs d'entre eux, en tout cas, les Villanoviens sont les ancêtres des Étrusques, bien qu'il semble y avoir eu quand même d'autres mélanges culturels aussi. Le noyau, on pourrait dire, des ancêtres des Étrusques, ce sont les Villanoviens. Et il n'y a rien qui laisse penser pour l'instant là, que c'était des peuples différents. Et là, lorsqu'on arrive vers la fin du 9e siècle et au cours du 8e siècle, l'Étrurie, avec ses contacts avec les Grecs, ses contacts avec les Phéniciens, développe vraiment un modèle politique qu'on est capable de suivre et de comprendre, parce qu'ils vont développer aussi l'écriture et les Romains plus tard vont nous parler d'eux. Alors là, on commence à avoir des textes écrits, ce qui vient appuyer, être un complément à l'archéologie. Et donc, ce qu'on sait, c'est qu'à partir de ce moment-là, l'Étrurie non seulement développe on va dire 12 cités-états, peut-être jusqu'à 15 selon l'époque, mais en plus, elles vont être fédérées. Alors là, ça, c'est quand même assez intéressant. Donc, vous allez avoir différentes cités qui sont chacune des États indépendants, comme on le voyait entre autres du côté de la Grèce, mais qui vont quand même se rencontrer plusieurs fois par année pour discuter des affaires courantes, discuter de commerce, de guerre, pourquoi pas. Et c'est pour ça que ça, c'est quand même différent du monde grec, cette espèce de fédération des cités-États étrusques. Elles sont donc indépendantes politiquement, mais elles sont quand même liées entre elles par la religion, qui est assez unique, sur laquelle on reviendra, la même langue et une culture matérielle qui est quand même commune. Et ce qu'on sait, c'est que la première forme de gouvernement des cités étrusques, c'était très probablement une monarchie, mais au gré des contacts entre les cités et l'établissement de cette fédération-là, on voit que ce type de gouvernement-là s'est transformé en une forme d'oligarchie qui était responsable d'à peu près toutes les institutions publiques. Bien qu'on pense que certaines cités ont peut-être aussi établi une forme d'assemblée populaire de citoyens pour leur donner un droit de parole politique, mais ce n'était probablement pas toutes les cités-états étrusques qui le faisaient. Alors, quand on dit oligarchie, c'est que vous avez, ça veut dire le pouvoir aux mains d'une minorité, c'est que vous avez une forme d'aristocratie dirigeante qui gère à peu près toutes les sphères politiques et sociales, en fait, de la cité-État. Donc, c'est pour ça qu'on dit là, qu'ils ont la mainmise, en fait, sur les institutions publiques. Et les villes étrusques, de ce qu'on en sait grâce à l'archéologie, vont toutes être protégés par des enceintes, des portes, de plus en plus en pierre. Mais c'est sûr qu'à l'interne, ce que dévoile l'archéologie au fil des années, elles peuvent être quand même assez différentes les unes des autres. Ça veut dire que si on avait circulé, en fait, en Étrurie à cette époque-là, donc surtout à partir des années 800 avant notre ère, on aurait compris qu'on était dans un univers étrusque parce que la culture se ressemble, mais d'une ville à l'autre, on aurait quand même vu une architecture, une disposition des bâtiments, une organisation sociale à l'interne qui peut être assez différente. Et ça s'explique quand même assez bien parce que on a quand même des cités étrusques qui vont être établies vraiment le long des côtes. Et ce sont elles qui vont avoir les contacts avec les autres cultures méditerranéennes comme nos Phéniciens et les Grecs et qui vont peut-être évoluer juste un peu plus rapidement et ensuite vont transmettre en fait leur savoir, leurs connaissances, leurs réseaux commerciaux même vers les cités qui étaient, elles, situées à l'intérieur des terres. Alors, on est vraiment hein, dans une espèce de lien de transmission constant dans le développement de la civilisation étrusque. Et si les cités-états donc, ont déjà été dirigés par une monarchie, on va avoir donc des oligarchies et parmi les aristocrates, de ce qu'on en sait, on va avoir des magistrats qui vont quand même changer à chaque année. Est-ce que c'était sous la forme d'élection? Est-ce que c'était davantage les aristocrates qui nominaient un magistrat différent à chaque année? Ça, c'est encore quelque chose pour un point sur lequel on a des flous. Je vous dirais ici, vous comparez certains livres, même récents, les historiens s'entendent peut-être pas nécessairement sur ce point-là, surtout quand on est au début de l'histoire étrusque, le 900, 800, 700 avant notre ère. C'est sûr que, bon, là, sur le plan socio-économique, c'est une économie qui est agricole, hein, et la majorité de la population est paysanne. Alors, cette noblesse-là, elle est vraiment en minorité, mais c'est elle qui détient la majorité des pouvoirs, et c'est clair que les fameux magistrats qu'on va voir passer, bien, sont choisis parmi cette toute petite classe. Et donc, c'est sûr, en fait, que les Étrusques ont une division sociale en classes sociales. Et il y a beaucoup de découvertes en fait qui ont témoigné qu'on possédait des esclaves chez les mieux nantis, obtenus par la guerre, obtenus par peut-être des dettes. Ça, c'est plus difficile à savoir malheureusement pour l'instant. Et la plupart des informations, ben, nous provient quand même des découvertes qu'on fait dans les tombes. Et ça, ben, il s'en fait encore. Dans les dernières années, il y a eu quand même quelques tombeaux encore qui ont été mis au jour. Certains, ont été pillés, il ne reste pas grand-chose. D'autres ont encore des objets intéressants à l'intérieur. Et au gré des découvertes, surtout depuis les années 80, je vous dirais, là, même si on travaille sur la civilisation étrusque depuis très longtemps, mais on peut dire qu'il y a quand même eu un tournant peut-être autour des années 80. C'est sûr que les tombeaux, eux, vont nous dévoiler un petit peu les richesses, le rang social des défunts, et on s'entend que ces tombeaux-là sont généralement réservés à l'élite, hein, donc à cette aristocratie dirigeante. Mais on va trouver beaucoup d'objets, des peintures murales absolument fabuleuses et significatives, même si elles sont très, très rares. Et il y a certaines tombes qui sont très imposantes par rapport à d'autres. Et une de celles qui est peut-être le plus marquée, qui reste en fait un des modèles et peut-être celle dont vous allez voir le plus de photos circuler aussi si vous tombez sur un livre de la civilisation étrusque, ben c'est la tombe qu'on appelle Rigolini Galassi. Elle date du 7e siècle avant notre ère et elle avait vraiment étonné lorsqu'elle a été découverte parce qu'elle a un long corridor de 36 mètres de long, 1,8 mètres de large à peu près et une chambre funéraire de chaque côté. Donc, c'est vraiment imposant et caché en fait sous un imposant tumulus de terre, là, qui est vraiment très, 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 très haut et très large. Il y a même une dalle, en fait, qui fermait la tombe en dessous. C'est quand les archéologues, en fait, Rigolini et Galassi, d'où le nom, sont entrés à l'intérieur, on avait un tombeau qui était intact. Et c'est pour ça que c'est souvent la référence quand on pense à l'art funéraire et à l'imagerie funéraire des Étrusques. Parce que dans ce tombeau-là, on a trouvé des pièces d'art absolument fabuleuses. On a des fresques, on a des poteries, on a des imitations, d'ailleurs, phéniciennes et grecques dans la poterie, mais d'autres noms qui sont assez originales des Étrusques. On a beaucoup de statuettes de bronze, on a des bijoux. En fait, dans cette tombe-là, on a trouvé des bracelets en or ciselés qui rappellent un peu, on va dire, le style davantage grec. On va avoir aussi des bijoux qui rappellent beaucoup plus l'Égypte, en fait, au niveau des décorations. On a un plastron, en fait, en or qui devait être porté lors peut-être de processions ou d'événements religieux ou politiques. Encore une fois, ciselé qui est vraiment magnifique. Alors, c'est toute une découverte, en fait, cette tombe-là. Et ça nous a révélé quand même qu'à partir du 7e siècle avant notre ère, il y a plusieurs secteurs de l'Italie qui ont accès à des grandes richesses. Et ça pourrait expliquer le développement social peut-être plus élaboré de certaines cités-états à cette époque-là. Et dans cette tombe et les autres qu'on va commencer à trouver en Étrurie et même dans le Latium, donc la région davantage de Rome, on commence à trouver des inscriptions en étrusque, plus tard en latin. Et ça va nous aider quand même à comprendre certains aspects de la société étrusque. Parce que pour l'écriture, ça semble en effet être apparu en Italie au cours du 8e siècle avant dans notre ère, ce qui est assez contemporain du développement de l'écriture alphabétique du côté de la Grèce. Et on pense d'ailleurs que, bon, l'établissement des Grecs à Pithécuse a peut-être contribué à l'émergence de l'écriture en Italie. On va parler en fait d'un style étrusco-punique parce que, bon, l'alphabet grec a été développé à partir quand même de l'écriture alphabétique phénicienne. Donc, c'est pour ça qu'on va parler d'un style étrusco-punique, punique pour phénicien. L'écriture, donc, on peut vraiment dire que c'est surtout à partir du 7e siècle que l'on va écrire davantage. Donc, bon, dans nos plus anciens documents qu'on a, qui sont surtout gravés, parce qu'on s'entend que même si le papyrus devait circuler en Étrurie, le climat de l'Italie, de par l'humidité, fait en sorte que du papyrus... ça pourrit. On n'a rien de ça, contrairement à l'Égypte, qui a un climat beaucoup plus sec et où on peut en trouver davantage. Alors, c'est vraiment tout ce qui est gravé, en fait, qui survit jusqu'à nous. Et c'est sûr qu'il nous manque beaucoup, beaucoup d'informations qui devaient être écrites à l'encre, mais qui n'ont pas survécu autant à cause, en fait, du climat méditerranéen, du climat italien plus spécifiquement. En fait, c'est aussi valide pour la Grèce. En fait, dans les seuls papyrus qui ont survécu en Italie, c'est la bibliothèque carbonisée d'Herculanum parce qu'elle est carbonisée, ces papyrus-là ont survécu jusqu'à nous. Alors, on a quelques rares documents latins aussi au 7e siècle. On va en avoir beaucoup plus après. Les premiers textes qu'on a sont fragmentaires, assez abîmés, donc sont difficiles à lire et même à dater, là. Mais ça nous aide quand même. Chaque inscription qui est découverte, en fait, nous aide toujours davantage à comprendre un peu la culture étrusque. Ce qu'on sait, c'est que sur le plan religieux, entre autres, on sait qu'il y avait des espèces de prophètes qui auraient révélé la religion aux Étrusques et un de ces prophètes se serait prénommé Targès. Donc, ce sont les textes latins plus tard qui vont nous parler de ça. Et on sait que c'était une religion qui était portée par écrit, dans des livres sacrés, un peu comme les Égyptiens, et que les Étrusques avaient développé différents rituels et utilisaient les auspices, donc l'examen des entrailles des animaux, et observaient le vol des oiseaux pour essayer de comprendre, en fait, le divin qui les entourait. Et là où ils sont assez rares et assez uniques, et ce qui a amené certaines personnes à se dire, est-ce que peut-être des peuples de la mer se seraient mélangés aux Étrusques pour que ce volet religieux-là soit si unique, c'est qu'ils voyaient en fait les rituels religieux comme une sorte de savoir scientifique que les Latins après, dont les Romains entre autres, vont appeler la disciplina étrusca. Et ça nous montre en fait qu'on avait une religion qui était rituelle et très très bien organisée avec une triade, on va dire, principale et des sous-divinités inspirées par les Grecs, pas que non plus. Donc encore une fois, les Étrusques qui parlent tous leurs contacts sont vraiment une civilisation de métissage une civilisation qui s'est vraiment développée au gré des contacts, au gré des transmissions et qui en est venue à développer sa propre culture, mais qui est donc une culture qui est un mélange de toutes les autres avec leur touche unique. Et donc, dans ces divinités principales, inspirées entre autres des Grecs, vous allez avoir le dieu Tyn, qui pourrait être l'association de Jupiter, Uni pour Junon, Minerva pour Minerve, mais on a aussi Tanur, qui était la déesse de la naissance, Aïta, qui était un peu l'équivalent d'un dieu des enfers, et Usil, qui était le dieu du soleil. Et peut-être un des plus importants, mais comme je vous dis, là, on va parler au conditionnel, parce que on n'a pas assez vraiment de texte pour affirmer ça hors de tout doute, mais vous avez aussi le dieu Velta, qui peut être Veltune ou Voltumna, qui semble avoir été très, très important parce qu'il est associé à la végétation. Et pour une société agricole dont la survie dépend essentiellement de la fertilité des sols, ce n'est pas si étonnant que ça. Et quand on regarde en fait les fresques mortuaires aussi, on voit qu'il y avait une forme de croyance en une sorte de paradis d'enfer, si on veut utiliser des termes judéo-chrétiens, mais on sent en fait une inspiration de l'Égypte avec cette idée que le tombeau devient une maison pour l'éternité où on va pouvoir vivre dans le plaisir après la mort dans cette vie-ci. Et ça, c'est quand même assez intéressant parce qu'on voit pas ça nécessairement partout. Et lié à tout ça, les temples aussi vont être très importants pour la société étrusque et on sait, là, parce que par les découvertes archéologiques qui ont été construites dans une espèce, on avait une enceinte sacrée Donc, l'enceinte, on les voit juste par des traces au sol, en fait, où ils faisaient des offrandes à leur divinité. Et au départ, ben, les bâtiments, les temples étaient en briques de boue séchées, là, avec des poteaux de bois dont on voit les traces aujourd'hui, mais qui vont évoluer vers des bâtiments en pierre qui sont les plus anciens de l'Italie. Donc, ce sont les Étrusques qui vont faire les premiers bâtiments en pierre de la péninsule italienne et notamment, en fait, au départ, dans un contexte religieux. Et un des aspects peut-être très détaillés de la culture étrusque qu'on a grâce aux tombeaux aussi, ben c'est tout ce qui est l'art. Alors, vous avez en fait des tombes comme les tombes aussi de Bernardini et Barberini, ce qu'on appelle le palais de Murlot, où on voit une influence de l'art grec, des fois un peu égyptien aussi, ou même oriental, qui est quand même assez original. Et ce qui est intéressant, ben, c'est que dans les dernières années, les archéologues en sont venus à dire qu'il y a à peu près juste 2% à peu près des tombes étrusques qui ont été mises au jour qui étaient peintes. Et donc, ça montre vraiment que l'élite, la très haute élite seulement, pouvait se permettre des décorations comme ça pour l'éternité. Soit les peintures étaient peintes directement sur un mur de pierre ou parfois sur une couche de plâtre qui rappelle encore les techniques égyptiennes avec les artistes qui vont dessiner d'abord les contours à la craie, au fusain, puis après ça, en fait, vont appliquer les couleurs. On a trouvé aussi donc dans les tombeaux beaucoup de statuettes, de sculptures en ronde bosse, des urnes cinéraires, des vases. On a des fresques aussi, ben c'est ça qui vont ici rappeler beaucoup les Minoens, les Crétois, parce que il y a beaucoup de fresques, en fait, qui sont dans les thèmes de la joie, du bonheur et qui sont très, très, très colorées. Et dans les objets, ben, les Étrusques vont beaucoup aimer travailler le bronze. Même s'ils vivent à un moment où l'Italie est entrée dans l'âge du fer, le bronze va rester important, surtout pour tout ce qui est art religieux et des objets du quotidien de luxe, comme des ustensiles ou des miroirs. Et on a aussi, nous en reste pas beaucoup, mais quand on en trouve, c'est toujours chouette, des grandes sculptures qui étaient réalisées dans l'alliage de bronze. Peut-être que la plus connue, bien, c'est la chimère d'Arezzo. Je vous invite à aller voir ça. Et là, vous allez faire, ah oui, ok, j'ai déjà vu ça. Et c'est étrusque, waouh! Un peu comme la Louve Capitoline, son ancêtre, en fait, était étrusque aussi. Donc, ces espèces de grosses sculptures en plusieurs pièces en bronze, ça, c'est quelque chose qu'ils vont développer beaucoup, surtout à partir peut-être du 7e siècle avant notre ère. Toujours pour cette même époque, d'ailleurs, ben là, ils vont développer de plus en plus leurs techniques urbanistiques qui vont influencer le plan de ville de Rome plus tard. Parce que là, ça va faire, à ce moment-là, 7e siècle avant notre ère, Rome, dans le Latium, va commencer son histoire aussi. Donc, ils vont coexister et s'influencer. Alors, on va voir des villes dont les plans sont mieux organisés avec des bâtiments de pierre. On va commencer à travailler aussi tout ce qui est l'hydraulique avec des canalisations pour apporter l'eau le plus près possible des maisons. Et on va avoir des murailles, des temples avec un plan rectangulaire, avec des podiums pour les cérémonies sacrificielles. Donc, il y a vraiment un plan urbain, une organisation de l'espace qui est beaucoup plus développé quand on arrive au 7e siècle avant notre ère. Et donc, on s'arrête là pour les Étrusques pour le moment parce qu'on est quand même rendu aux années 600. On a d'autres sociétés à voir avant d'entrer vraiment dans cette période-là de l'histoire ancienne. Il va falloir refaire un petit tour, en fait, du côté de la Chine notamment et de la Grèce. Alors, si les sujets d'aujourd'hui vous intéressent, pour en savoir plus, en fait, si vous voulez des livres, je vous en recommande deux. Je vous recommande « Les Étrusques » de Michel Thiard, qui est paru chez Ellipse, et assez récent, « L'aube des Étrusques » de Bernard Sergent, qui est paru aux éditions Les Belles Lettres. Et si vous souhaitez suivre mes actualités en histoire, en archéologie, sur les réseaux sociaux, j'ai toujours mes deux comptes Facebook, Évelyne Ferron historienne et Historiophile, qui est plus mon fil d'actualité, en fait, sur Facebook. Et je fais aussi les mêmes actualités quotidiennes, là, toujours sur X, mais davantage sur mon compte Blue Sky. Et bon, ben, dans mes stories Instagram, j'aime bien repiquer, en fait, tout ce que je vois d'intéressant en histoire, en archéologie. Donc, c'est quand même très vivant de ce côté-là aussi. Et donc, si vous appréciez ces cours d'histoire, ben, n'hésitez pas à laisser des étoiles sur les plateformes et à partager les épisodes afin que d'autres personnes les découvrent. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain cours!